La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode d'une série consacrée à l'écrivaine Annie Ernaux. Elle a inscrit en exergue de son dernier roman, Mémoire de fille, cette parole du groupe Supertramp, « Please tell me who I am », en français « Dis-moi s'il te plaît qui je suis ». En effet, qui je suis, c'est la question que semble se poser Annie Ernaux dans la plupart de ses livres. Et c'est à cette question que nous avons essayé de commencer à répondre hier avec Michel Porte en première partie de notre émission introductive, puis avec Tiphaine Samoyau qui a insisté, elle, sur la figure de la jeune fille. Chez Annie Ernaux, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast. Demain, avec Pierre-Louis Faure, nous parlerons de l'intérêt d'Annie Ernaux pour les lieux ordinaires rejetés par la littérature, comme les villes nouvelles ou encore les supermarchés. Nous parlerons également de son grand et court roman « La Place » qu'il a fait connaître en 1984. Enfin jeudi, il sera question d'un roman bien particulier dans l'œuvre d'Annie Ernaux, « Les années », longue fresque intime de la France et des Français. Bruno Blankmann nous en parlera, tout comme il reviendra sur les chansons très présentes dans les livres d'Annie Ernaux, ainsi que sur ses personnages d'exclus. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler de la place d'Annie Ernaux dans la littérature contemporaine, ainsi que sur son rapport, beaucoup commenté, mais sur lequel il nous faut revenir à la sociologie, eh bien nous passons l'heure qui vient avec Dominique Viard, professeur de littérature à l'université de Nanterre, auteur de nombreux ouvrages sur la littérature contemporaine, dont « Anthologie de la littérature contemporaine, romans et récits depuis 1980 », que vous avez publié, Dominique Viard, en 2013, chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est également chez Armand Collin, d'ailleurs, que vous avez publié avec Gianfranco Rubino le livre « Écrire le présent ». Et c'est bien ça qui vous intéresse, écrire sur la littérature en train de se faire.
Oui, ça a été un combat au début pour essayer d'expliquer à mes amis universitaires que la littérature en train de se faire méritait autant d'intérêt que la littérature déjà faite, et qu'en plus elle était vivante et en train de se créer sous nos yeux, et que ça méritait qu'on s'y penche un petit peu de manière attentive.
Vous la trouvez en forme en ce moment, la littérature?
Je la trouve très en
française
forme,
ou
très,
en français.
Très stimulante, oui, absolument, très inventive, très novatrice et très consciente de ses enjeux aussi.
Les contemporains qui comptent pour vous, très rapidement, ce sont qui?
Oh, je ne vais pas faire de hit parade, la liste serait d'abord beaucoup trop longue. Ça va de gens de la génération d'Annie Ernaux et de Pierre Michon jusqu'à de jeunes auteurs comme Arnaud Bertina, Mélise de Carangal, Luc Lang, et on pourrait en citer comme ça des dizaines.
Éric Chevillard, sur qui vous travaillez, François Bon, Gérard Massé, Antoine Volodine, et puis Annie Ernaux, à qui vous avez consacré donc une étude. Est-ce que vous diriez qu'elle fait partie, très clairement, de nos contemporains capitaux, pour reprendre cette expression jadis utilisée pour Gide?
C'est une contemporaine majeure, en fait, oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle incarne très fortement la littérature de notre temps. Elle a été aussi à l'origine de formes littéraires qui sont apparues depuis les années 80, depuis La Place que vous évoquiez tout à l'heure justement, et qui se sont imposées depuis, qui ont connu quantité de formes et de manifestations chez beaucoup d'écrivains.
Comment définiriez-vous cette forme littéraire-là, ou comment
l'appelle-t-on ? J'avais appelé ça des récits de filiation. La Place paraît en 83, l'année suivante c'est Vie minuscule, Pierre Michon. Ce sont des textes dont les auteurs, qui sont aussi les narrateurs de manière assez transparente, s'interrogent sur leurs propres origines familiales, mais aussi parfois des origines un peu plus électives, si l'on veut, et enquêtent sur ces origines pour arriver à se définir eux-mêmes, connaître leur propre héritage, leur propre situation dans le corps social.
On reviendra peut-être sur cette notion des filiations un peu plus tard dans l'émission. Le mot de filiation me fait penser à un certain nombre d'écrivains qui pourraient être des enfants justement d'Annie Ernaux, mais pas forcément ceux auxquels on penserait immédiatement. J'ai lu par exemple que Virginie Despentes revendiquait une certaine filiation avec Annie Ernaux. Vous la voyez, cette filiation ?
Il y a beaucoup de filiations avec Annie Ernaux selon l'aspect de l'œuvre d'Annie Ernaux que l'on met en évidence. Il y a cet intérêt pour la filiation, pour l'héritage, pour l'enquête sur la famille dont on est issu, que j'évoquais à l'instant. Mais il y a aussi la dimension plus féminine et même féministe, militante d'Annie Ernaux. Il y a une dimension sociale. Il y a un intérêt pour le monde extérieur qu'on retrouverait chez Joyce Ormond, pour parler de jeunes écrivaines, par exemple. Lorsque Joyce Ormond écrit sur Inhabitable, elle n'est pas très loin de ce que fait Annie Ernaux lorsqu'Annie Ernaux écrit sur le RER ou sur les centres commerciaux. Donc il y a différentes Annie Ernaux, il y a différentes facettes de ce personnage assez multiples qui sont des voies suivies par tel ou tel écrivain ou écrivaine, des hommes aussi, Patrice Robin par exemple, ou Philippe Villain sont des auteurs qui revendiquent le modèle d'Annie Ernaux. Donc c'est pas seulement des femmes, je crois que c'est un modèle qui est beaucoup plus large et diversifié.
Deux autres noms encore, assez étonnants je crois, Emmanuel Carrère. Dans le rapport au réel, considère Annie Ernaux comme étant quelqu'un d'important pour lui dans sa littérature. Et puis peut-être de manière un tout petit peu plus évidente, Édouard Louis, dans le rejet qu'il a pu exprimer dans ses livres de son milieu d'origine, sur ces deux noms, avez-vous, Dominique Viard, un commentaire à faire ?
Alors sur Emmanuel Carrère, très certainement, lorsqu'Emmanuel Carrère se penche sur ce qu'il appelle d'autres vies que la sienne, il n'est pas très loin de ce que fait Annie Ernaux, même si on n'imagine pas ça de manière très évidente au début, puisque Annie Ernaux se penche plutôt sur sa propre vie. Mais lorsqu'elle s'intéresse à ces univers sociaux que j'évoquais tout à l'heure, ce sont bien d'autres vies que la sienne qu'elle interroge à travers le prisme de sa propre expérience. C'est un peu la même chose chez Carrère, finalement. Et à chaque fois, il y a aussi une interrogation de soi, de la manière dont l'écrivain se saisit de la vie des autres et dont la vie des autres lui fait apparaître certains aspects de sa propre existence. Pour Édouard Louis, c'est un petit peu la même chose, avec cette origine d'un milieu social effectivement très, très modeste, sinon un peu déshérité, dont il faut s'émanciper pour exister, avec en plus une composante homosexuelle qui porterait plus vers Héribon, par exemple, ou vers d'autres auteurs qui ont frayé un peu les mêmes voies.
Alors, on a vu un petit peu les enfants. Prenons la question dans l'autre sens et essayons de voir, parmi ceux qui ont précédé Annie Ernaux, ceux qui pourraient en être inspirateurs. Vous avez beaucoup travaillé sur le nouveau roman, sur Claude Simon en particulier. Est-ce que entre le nouveau roman et Annie Ernaux, il y a un lien, aussi tenu soit-il?
Alors, il y a un lien que Annie Ernaux évoque elle-même, d'ailleurs, qui est un lien originaire, puisque lorsqu'elle a commencé à écrire un roman qui a été, en fait, refusé par le seuil auquel elle l'avait proposé, c'était un roman qui était très, très marqué par le nouveau roman, qui s'écrivait de cette manière assez détachée du réel, ce qui finalement n'est pas sa manière à elle. On le verra, je pense, en parlant ensemble tout à l'heure. Donc il y a cette influence-là, cette influence aussi pour un roman qui refuse le romanesque, qui refuse une sorte d'édulcoration de la réalité.
Il n'y a pas de narration à proprement parler dans un livre comme Les Années, par exemple, qu'on pourrait peut-être du coup rapprocher de cette idée-là du nouveau roman.
Oui, dans Les Années, il y a cette saisie d'un flux temporel, indépendamment d'une histoire qui viendrait à se raconter. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'identification de quelque chose qui serait à raconter, mais ce qui se raconte, c'est l'écoulement du temps et les différentes manières de le saisir à travers les objets auxquels on s'intéresse, puis qui passent, à travers les questions dont on discute à table, à travers les musiques qu'on entend, à travers les publicités, ce qui finalement constitue une sorte de dépôt du temps dans nos mémoires. Donc cette dimension-là temporelle, qui est assez proche, effectivement, cet inexorable écoulement du temps dont parle Claude Simon, pourrait non pas identifier Annie Ernaux à cette écriture-là, mais en tout cas la rapprocher. En revanche, les trois premiers livres qu'elle fait paraître sont quand même très marqués par le monologue intérieur, par une forme de récit qui est une pulsion de soi, la volonté de faire apparaître une conscience dans le flux de l'écriture. Ça, c'est encore très proche du nouveau roman, même si quand elle évoque ces textes-là, elle parle plutôt de l'influence de Céline qu'elle a pu éprouver à ce moment-là.
Qui sont donc des romanciers dont l'écriture est extrêmement présente, extrêmement visible. Claude Simon, Céline aussi. Là, il y a une différence très nette en revanche.
Alors c'est une différence, mais qui mérite d'être auscultée de manière un peu plus profonde, parce que cette écriture plate qui est revendiquée par Annie Ernaux, à laquelle vous faites allusion, je pense, n'est pas un défaut d'écriture. C'est un choix d'écriture, c'est un choix profondément éthique d'ailleurs, un choix qui correspond à l'enjeu qu'elle donne à son œuvre à partir de la place. Et donc il s'agit de se défaire de tout ce que l'aspect trop rhétorique, trop travaillé de l'écriture pourrait apporter dans un texte qui se veut au ras des choses, au ras d'une expérience, qui essaye de saisir cette expérience dans ce qu'elle a à dire, véritablement, et non pas de la noyer sous des effets de romanesque, d'édulcoration ou de rhétorique. Donc c'est un choix, c'est à la fois un choix esthétique, comme je viens de le dire, c'est un choix éthique, parce qu'il s'agit aussi d'écrire un texte qui puisse être lu par ceux dont ce texte parle.
C'est une question de respect par rapport à ses parents, en particulier, dont elle parle
à son père, régulièrement à sa mère, à son milieu textes. Social. Oui, oui, tout à fait. Il s'agit de réduire cette distance de classe qu'elle a éprouvée de manière assez malheureuse, finalement. Mais il y a quand même un travail de littéraire. Elle dit dans une conférence qu'elle a donnée à Yves Thau il y a assez peu de temps, qu'elle voulait écrire littérairement la langue de tous. Mm-hmm. Et donc cette langue plate, c'est la langue de tous, mais il y a un travail littéraire pour la faire saillir à l'intérieur de l'œuvre.
Donc c'est un cadeau aussi qu'elle fait à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de lire de la littérature, que de faire de la littérature dans sa pureté, mais qui soit aussi accessible.
Oui, et du coup, ça travaille extrêmement difficile, parce que on le voit bien, il y a eu une... Peut-être vous vous souvenez de cette discussion qui avait lieu à propos des écrits de la Première Guerre mondiale, où un critique belge, Norton Crewe, reprochait à ses écrits d'être trop littéraires, où les poilus qui avaient écrit leur expérience de ce désastre l'avaient écrit comme on leur avait appris à faire les dictées à l'école élémentaire. Mm-hmm. Et d'une certaine façon, ils avaient transformé ce matériau violent, âpre, en matériau littéraire, élaboré, romanesque, qui le défigurait.
Mm-hmm. Et qui les éloignait. Qui
les éloignait du réel vécu, absolument. Ce qu'Annie Ernaux essaye de faire, c'est exactement le chemin inverse, en fait. C'est revenir à la crudité même des choses, les faire éprouver dans la langue.
Ce qui m'intéresse dans la littérature d'une manière générale, c'est l'histoire des gens. Donc ça veut dire le temps, des destins, donc si ces transformations des êtres au cours du temps. Donc cet aspect historique, aussi l'aspect social. Bon. Et puis, dans sa jointure avec le familial, c'est vrai, ça m'était très important. Donc, j'ai focalisé sur mes parents, mais il est certain que chez moi, le désir d'écrire est plus grand que le sujet lui-même. Bon, c'est quoi ? C'est combler un vide, très certainement. Je crois très très fortement qu'il y a là, il y a là peut-être un désir aussi, nous sommes presque au 21e siècle, qui par certains côtés... ne nous fait pas vraiment peur, mais on se dit qu'est-ce que ce sera, qu'est-ce que ça va être, et qu'on a certainement envie d'y arriver avec aussi une histoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je sens les choses, c'est-à-dire que j'avais besoin, j'ai plus de 40 ans, d'une certaine façon d'assurer derrière moi, d'avoir quelque chose derrière moi, et ma mère morte, c'était au fond, c'est toute l'histoire qui était morte pour moi. J'avais besoin de la reconstituer. Et donc, toute l'histoire, ma mère est née en 1906, elle est morte en 1986, ça m'est apparu brusquement comme un grand pan d'histoire. La transformation des mentalités est tout à fait considérable, notamment en ce qui concerne donc la liberté sexuelle, toutes sortes de d'autres valeurs aussi qui sont disons que ce qu'on appelait la moralité n'a plus cours. La bonne conduite, un terme qui revenait toujours, une fille qui a de la conduite, une fille bien tout cela, ça n'a plus grand sens.
La Compagnie des auteurs sur France Culture et cette archive qui date de 1988, Dominique Viard, mais on a l'impression qu'Annie Ernaux, finalement, pourrait tenir encore aujourd'hui le même type de propos, brosser à peu près le même panorama. Qu'en pensez-vous ?
Oui, il y a une très grande fidélité à elle-même à partir de la place. Et même finalement antérieurement, parce que contrairement à Claude Simon, tiens, dont on parlait tout à l'heure, elle n'a pas renié ses premiers textes. Et dans l'édition Quarto, elle a recomposé en fait son œuvre en les mélangeant.
On a l'impression qu'elle a tout de suite su ce qu'elle voulait faire, qu'elle a tout de suite trouvé.
Elle a tout de suite su ce qu'elle voulait faire, mais elle n'a pas trouvé le chemin tout de suite. Non, le chemin, elle l'a cherché d'abord. Et effectivement, les trois premiers textes, les Armoires vides qui disent rien ou La femme gelée, sont des textes qui cherchent leur voix jusqu'à ce que cette voix se trouve dans la place et jusqu'à peut-être qu'elle s'épuise finalement avant les années. Et les années est une sorte de renouvellement de l'œuvre, en fait, un nouveau ton avec beaucoup plus d'espace accordé à la dimension lyrique, par exemple, de l'expression de soi et d'emportement dans la langue. Alors que au moment d'une femme, le texte qu'on vient d'entendre, et vous l'avez entendu, une femme qui a de la conduite, c'est à travers les mots, les expressions d'un certain univers social, une sorte de sociolinguistique finalement, qu'elle essaye d'identifier ce qu'il en est du milieu dont elle parle, du milieu dont elle vient. Et vous avez entendu aussi qu'elle parle de la jointure du familial et du social. Elle décrit souvent son travail comme une auto-sociobiographie, en introduisant cet étymon de sociologique au milieu du travail biographique. Comme s'il y avait là quelque chose qui se jouait dans la discussion avec les sciences sociales, avec les sciences humaines.
Et même avec l'histoire, parce que ce qui est assez étonnant, c'est l'impression d'intimité qu'on a à la lecture des livres d'Annie Ernaux. Et en même temps, il y a toujours l'histoire qui est présente. Je pense par exemple aux Armoires vides qui ne pourraient plus être écrit aujourd'hui, ou alors à l'événement qui ne pourrait plus être écrit aujourd'hui après les lois Veil. Donc c'est inscrit vraiment dans la grande histoire, et en même temps on est toujours dans la micro-histoire.
Alors c'est pas la grande histoire, c'est pas la, justement,
temps, disons.
Oui, mais c'est pas la même chose, l'histoire et le temps. Je fais une petite parenthèse justement pour cette inscription dans l'histoire et dans la grande histoire à propos des années. Les années sont scandées par des déjeuners de famille, à peu près tous les 10 ans, il y a l'évocation d'un déjeuner de famille et des conversations qu'on y tient. Et on voit s'estomper la question de la grande histoire au fil de ces déjeuners. Et au début, on est dans les années 50, juste après-guerre, on parle de la guerre, on parle des événements, on parle même de la grande guerre encore. Et puis peu à peu, tout cela se dilue, se disperse au profit de conversations qui sont plus anodines sur les objets à la mode, sur les chansons du moment. On voit que la grande histoire se perd.
Au moment de la guerre... Est-ce que c'est ça qui est devenu la grande histoire, c'est la consommation, peut-être, tout simplement.
Ben, la grande histoire, c'est quand même la grande histoire géopolitique. Enfin, c'est la guerre d'Algérie, par exemple. Or, au moment de la guerre d'Algérie, elle parle des transistors, qui ont pourtant joué un rôle dans la guerre d'Algérie, puisque c'est grâce aux transistors que le pronunciamento des généraux n'a pas pu aboutir. Au lieu de dire cela, qui est quand même un événement historique de la grande histoire, elle dit qu'on pouvait emporter la musique avec soi sur la plage ou dans la campagne. Et donc, on voit bien qu'on est plus dans une histoire commune, dans une histoire générale, un peu banale, finalement, une histoire du quotidien. Alors les lois Veil que vous évoquez à l'instant, pour y revenir, sont effectivement des choses qui relèvent d'une certaine grande histoire politique de la France, mais qui sont surtout des choses qui sont ressenties dans l'histoire commune, parce que les femmes sont plus obligées d'aller avorter à l'étranger ou de le faire clandestinement avec tous les risques que cela suppose. Et donc ces livres effectivement sont datés par le fait que l'avortement clandestin qu'elle évoque dans l'événement, c'est effectivement un événement qui n'aurait pas pu avoir lieu à un autre moment. Mais c'est parce que c'est une histoire subie, finalement. C'est pas une histoire avec laquelle on dialogue directement, c'est une histoire qui entraîne les personnes avec elle.
Et en même temps, est-ce qu'on peut parler d'esprit du temps quand on lit les romans d'Annie Ernaux? Est-ce que ça n'est pas plus que cela qui transparaît dans ces backgrounds, dans ces panoramas finalement qui sont en arrière-plan de ces romans? Est-ce que ce n'est pas un peu plus que simplement l'esprit du temps, Dominique Viard?
C'est à la fois l'esprit du temps et l'essence du temps. Et l'esprit du temps au sens de l'existence, des expériences avérées, de ce qui date une époque, le Tépaz, la chanson d'un tel ou telle publicité, ou tel micro-événement de la société qu'on retient et qui fait sens. Mais il y a aussi l'essence du temps au sens d'un flux, de quelque chose qui avance, dont on ne peut pas se retirer, avec quoi on ne peut pas prendre distance, qui nous emporte, qui se mesure aux photographies, par exemple, qu'elle évoque, et où on voit l'enfant qui devient adolescente, et puis qui est, à chaque fois est datée aussi par les vêtements qu'elle porte, par le contexte, qui est datée, qui est inscrite à la fois dans un temps et dans un milieu social aussi, bien sûr.
Alors l'histoire, si elle est présente chez Annie Ernaux, c'est peut-être politiquement qu'elle est présente. On sait que Bourdieu est une inspiration très importante pour Annie Ernaux, mais on pourrait peut-être citer Marx aussi. Est-ce que là, il y a de l'histoire qui est injectée de manière détournée peut-être dans les romans d'Annie Ernaux, Dominique Viard ?
C'est de l'histoire et c'est surtout de la sociologie, c'est de l'histoire sociologique, je dirais. D'abord parce qu'il y a effectivement la prise de conscience du monde auquel elle appartient en lisant Bourdieu dans les années 70. Alors, ça date ce moment-là de la pensée française, mais ça date aussi une prise de conscience individuelle au miroir de cette pensée française. Donc c'est à la fois un événement historique et un événement sociologique. C'est plus un événement social pour elle, parce qu'elle comprend un certain nombre d'expériences vécues à la lumière de ce qu'elle lit chez Bourdieu. Donc il y a une intellection de sa propre vie qui d'un seul coup apparaît.
Le dominé en saura toujours beaucoup plus sur les hiérarchies, sur le monde dominant, même s'il ne le connaît pas, même si ce monde-là est invisible. Il en saura toujours beaucoup plus que le dominant. C'est une constante. Et c'est pourquoi, ce qui explique certains de mes engagements politiques, c'est vrai qu'on est tout de suite affronté à la lutte des classes, on est affronté tout de suite au regard condescendant, aux paroles qui stigmatisent d'une manière extrêmement violente. Ce sont des expériences si précoces qu'elles ne peuvent que être fondatrices, en quelque sorte, et donc obligées à prendre, dans l'écriture elle-même, au départ, vous avez dit combien les armoires vides étaient violentes, c'est un livre extrêmement violent, effectivement, pour raconter justement ce passage et comment l'école, je vais adhérer complètement aux valeurs de l'école, je vais me retourner contre mon milieu familial en me demandant pourquoi au fond mes parents ne parlent pas bien, pourquoi mes parents préfèrent les films de Fernandel et de Bourville à d'autres films, pourquoi mon père ne veut jamais aller nulle part, comme il dit, et qu'il préfère son jardin, pourquoi il n'aime pas lire, etc. Donc à l'adolescence, je suis dans ce retournement-là, dans ce monde qui se retourne, et bien entendu, ça se manifeste au point de vue sentimental, c'est-à-dire que je ne veux absolument pas sortir avec les garçons de la campagne, comme on les appelle, ni même des garçons qui sont des ouvriers, hein, c'est ainsi, et que je recherche donc la compagnie des garçons bien, comme on les appelle, les garçons bien. Scorching skies around, wearing all the
dye. Entretien avec Geneviève Brisac en 2002. C'est donc, Dominique Viard, on vient de l'entendre très consciemment, que Annie Ernaux utilise la sociologie de Pierre Bourdieu comme une explication du monde.
Alors c'est en fait plusieurs utilisations de la sociologie. C'est ça qui est très intéressant chez Annie Ernaux. Il y a à la fois une explication, effectivement, elle se comprend à la lumière de ce qu'elle lit chez Bourdieu. Ça, c'est indéniable et elle le dit beaucoup, elle le répète assez volontiers. Et elle valide aussi, c'est le phénomène un peu inverse, elle valide les thèses de Bourdieu par son expérience.
Elle dit qu'elle le ressent même dans son corps.
Oui, elle parle de preuve par corps. C'est un très beau texte qu'elle a donné à un volume que nous avions rassemblé autour de Bourdieu et la littérature. Elle fait la preuve par corps. Elle dit qu'elle fait la preuve par corps des thèses.
C'est quoi ça, faire la preuve par corps des thèses de
Bourdieu? Ça veut dire qu'elle se rend compte qu'elle a éprouvé effectivement, dans l'ordre du vécu, du percept, si vous voulez, ce que Bourdieu échafaude dans l'ordre du concept. Et donc, il y a une validation des thèses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une élucidation de son expérience par la conceptualisation bourdieusienne, et il y a en même temps une validation des thèses de Bourdieu par son vécu à elle.
Et ça arrive à quel âge, à peu près, cette prise de conscience, cette lecture de Bourdieu?
C'est dans les années 70, et donc c'est au moment où elle décide d'écrire, en fait. Et elle décide d'écrire cela, avec d'abord cette véhémence qu'elle évoquait à l'instant à propos des armoires vides, et puis ensuite avec cette espèce de distance, au contraire, qu'elle prend dans la place, où elle met effectivement un peu à distance la vie de son père. Et ce qui est très intéressant dans le passage qu'on vient d'entendre, c'est qu'elle dit avoir fait, quand elle était adolescente, l'expérience d'une sorte de reniement de sa famille, renier les usages, les pratiques, les coutumes, les réflexes culturels ou les absences de réflexes culturels de sa famille pour au contraire essayer d'en conquérir d'autres. Et donc il y a ce moment de trahison, vous vous souvenez de l'exergue peut-être qu'elle a mis à la place, écrire c'est le dernier recours lorsqu'on a trahi.
On y reviendra, hein, oui.
C'est la formule de Genet. Et puis, à partir de la place, il y a la volonté, au contraire, de revenir vers ce milieu-là, dans une sorte d'effort. Elle parle de reconstituer, enfin de restituer ce que c'est que ce milieu-là, et le faire entendre aussi dans un monde bourgeois qui est celui de la littérature.
Sans misérabilisme, mais sans héroïser non plus.
Voilà, de manière tout à fait neutre, aussi neutre que possible, d'où le choix de l'écriture dont nous parlions tout à l'heure. Moi j'appelle ça une sorte d'éthique de la restitution, c'est-à-dire qu'il s'agit de restituer le monde dont elle vient, le restituer au sens aussi où, en lui rendant sa légitimité, en lui donnant une légitimité que peut-être il n'a pas aux yeux du public.
Et donc là, Bourdieu a été réellement un déclic, ça a changé par la prise de conscience, peut-être par la structuration de son esprit, grâce à ses théories, ça a changé quelque chose dans son écriture.
Oui, ça a changé parce que du coup, ça lui donne ce regard un peu distancié, qui est plus dans ce monologue intérieur très très véhément des trois premiers livres, elle prend un peu plus de distance et elle commente en même temps. Elle commente ce qu'elle décrit. Elle ne cherche pas à raconter de manière biographique la vie de son père ou celle de sa mère dans la place ou dans une femme, mais elle cherche à en saisir des moments qui sont des moments significatifs à partir desquels elle peut échafauder effectivement ou comprendre un peu mieux ce milieu dont elle vient et la relation qu'elle entretient avec lui.
Et alors, est-ce que pour vous, on entre là dans une littérature qui est une littérature de combat politique? Est-ce que, justement, à travers ces structures sociologiques que vous venez de décrire, Annie Ernaux a consciemment décidé de faire de sa littérature une arme?
Oui, et en faisant cela, elle renoue avec des formes littéraires qui avaient existé au début du XXe siècle, littérature populaire ou populiste ou prolétarienne par exemple, et qui s'était un peu estompée quand même sous l'effet du nouveau roman, d'une littérature plus académique ou académicienne d'ailleurs dans les années 50-60. Et elle revient à cela. C'est sans quoi elle se détache du nouveau roman dont nous parlions tout à l'heure, parce que le nouveau roman écrivait une écriture intransitive, comme le disait Barthes, alors que elle, au contraire, elle veut que l'écriture soit le lieu d'une transition, enfin d'un échange avec le milieu social dont elle parle. Et donc, elle entreprend de dire ce milieu-là et de lui redonner une dignité en le mettant sur la scène littéraire. Ça, c'est un geste très important. Et puis, un deuxième phénomène qui est assez intéressant dans cet usage de la sociologie bourdieusienne, c'est que la sociologie lui permet aussi de se renouer à sa propre mémoire. C'est dans La Honte où elle dit qu'elle se souvient plus très bien de cette fille de 62 dont elle parle, qui est la fille qui avait perçu ce geste de peut-être de son père sur sa mère, ce geste violent. Et donc c'est
cette tentative de meurtre presque, hein.
Ce qu'elle pense avoir été une tentative de meurtre sans que cela soit bien élucidé en fait. Elle le fantasme ainsi, elle le pense ainsi. Et donc pour retrouver cette petite fille qu'elle était, elle utilise la sociologie pour aller retrouver des phénomènes de classe, des habitus, des formes d'être, des ethos, qui lui permettent d'un seul coup de renouer avec sa propre mémoire. Donc la sociologie, c'est une façon de se relier à soi-même aussi.
Mais est-ce que vous diriez que c'est un réel projet, encore une fois, pour Annie Ernaux que d'influencer finalement jusqu'à, je ne sais pas, la classe politique, en tous les cas la société autour d'elle, en écrivant ses romans et en les écrivant de la manière dont elle les écrit.
C'est difficile de parler d'un projet véritablement concerté. Il y a une conscience de ce qu'elle fait. Est-ce que le projet est de faire évoluer la société dans un sens ou dans un autre ? C'est plus délicat de le dire, il me semble. Il y a une conscience de ce qu'elle fait.
Elle fait attention à la façon dont elle écrit, donc c'est déjà un projet politique quand même.
C'est un projet politique pour elle-même à ce moment-là. Mais c'est pas un projet politique au sens de l'engagement sartrien qui voudrait montrer la voie ou désigner des formes de pratiques à avoir au nom d'une idéologie qui serait préconstituée. Il s'agit au contraire de faire entendre ce qu'il en est d'un certain milieu, d'une certaine expérience, de l'expérience des femmes, de l'expérience des jeunes, de l'expérience des quartiers, de l'expérience de la province, de la petite province, d'une certaine expérience du temps, et ça de donner à tout cela une visibilité. Si on considère que ça est un projet politique au sens large du terme, c'en est un. C'est pas un projet politique au sens étroit du terme.
Non, mais est-ce que par exemple, on est dans une littérature qu'on pourrait qualifier de littérature de lutte des classes ?
Oui, c'est une littérature de lutte des classes parce que c'est une littérature qui est consciente. Elle le dit elle-même, elle se revendique comme marxiste, hein, elle n'a pas renoncé au projet marxiste. Elle a conscience de la lutte des classes et des différences sociales de manière très, très forte et elle les exhibe dans ses textes. Oui, absolument.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Dominique Viard, nous allons continuer d'évoquer avec vous l'écrivaine Annie Ernaux dans la compagnie des auteurs. Mais d'abord, il convient d'aller voir ce qui s'écrit dans les revues littéraires en ce moment. Aujourd'hui, c'est Éric Dussert du Matricule des Anges qui nous fait le plaisir d'une visite. Bonjour Éric Dussert. Est-ce que le Matricule des Anges défend en général, j'imagine que oui, hein, le travail d'Annie Ernaux? Il va falloir aller un peu plus loin.
Il est difficile de ne pas reconnaître à Annie Ernaux une place cardinale dans la littérature contemporaine.
Vous avez fait beaucoup de une sur elle au fur et à mesure des années.
Ma mémoire n'est pas très fraîche, mais je pense qu'il y en a une, oui, naturellement, au moins. Cela étant, ça peut se refaire régulièrement, hein, y a pas de souci. Mm-hmm. Et j'ai pour ma part, Dominique me rafraîchira la mémoire, mais j'ai le souvenir de ces pages absolument merveilleuses sur la découverte du camping par Annie Ernaux, qui sont des pages magistrales de la littérature d'aujourd'hui. Oui.
D'accord, le camping, un lieu qui est encore une fois souvent bien oublié de la littérature. Il fallait Annie Ernaux pour venir nous rappeler que c'était un lieu aussi éminemment romanesque. Alors, dans le Matricule des Anges, ce mois-ci, à la une, on trouve Juan José Saer, qui occupe finalement la première place sur la couverture du numéro de janvier.
Tout à fait. C'est donc Juan José Saer, le très très grand écrivain argentin du siècle dernier. Ses livres, qui ont été merveilleusement traduits par Laure Bataillon, s'intitulent L'Occasion, Glose ou encore L'Ancêtre. Ce sont des fictions remarquables d'invention, de facture et de ton. Le traducteur Guillaume Contré lui a consacré donc ce dossier, un dossier complet, à l'occasion de la réédition par les éditions Le Tripode de son Fleuve sans rive. Mm-hmm. C'est un livre qui est cette fois traduit par Louis Sauter. Alors ce récit est à la fois documentaire et réflexif. Il prend naissance sur la rive du Rio de la Plata, le fleuve qui sépare l'Argentine de l'Uruguay. Et c'est un livre que Saer a écrit quasiment en exil puisqu'il vivait à Paris depuis 68. Son sous-titre est parlant. Ce livre est un traité imaginaire qui élabore un propos sur la création tout autant qu'il dessine un point de vue sur cette région d'Argentine qui est envisagée comme une matrice des récits, et on voit lesquels, ces récits de la frontière et du rêve. Le tout est pétillant d'intelligence et on le range très aisément aux côtés du dupe de Claudio Magris et du Praga Magica d'Angelo Maria Ripellino. Pour Juan José Saer, le fleuve est comme la vie, je cite, un grand flux sans nom, sans forme et sans direction, dont on ne distingue donc pas l'autre rive.
Alors beaucoup plus loin que le Rio del Plata, c'est le jeune américain Yaroslav Kalfar qui propose un livre intitulé « Un astronaute en bohème ». C'est un roman traduit par Georgina Takou pour Kalman Levy. Vous nous en parlez également dans le Matricule des Anges.
Et il va très très loin, effectivement, on va un petit peu plus loin que l'Argentine. Ce roman met en scène Yacoub, un astrophysicien qui est en route vers Vénus à bord d'un astronef. Pour illustrer la veine tchèque de la fiction dont on connaît les capacités fantasques, Jaroslav Kalfar, émigré depuis l'âge de 13 ans aux États-Unis, a pris le parti d'une science-fiction avec voyage sidéral et sentimental. Parce que lancé dans le vide, stellaire, l'astronaute apprend, catastrophe, que sa femme Lanka le quitte. Pour la reconquérir, il se lance dans des pérégrinations qui pourraient être homériques si elles n'étaient pas inspirées plus par Isaac Asimov que par Ulysse. En résumé, cet astronaute en bohème, c'est un roman national, aérien, mélancolique et burlesque.
Voilà, et pour terminer, cher lecteur, c'est le titre du nouvel opus de Georges Picard à l'enseigne des éditions Corti. On y parle tout simplement et bien, des livres.
Des livres, en effet. Porté par l'inquiétude d'un avenir sans livres, Georges Picard lance ici un chant d'amour à la littérature et à la pensée imprimée. Il est très impressionné par l'omniprésence du numérique dans la sphère culturelle. Et en fait, cette question d'une société sans l'espace blanc de la page le taraude. Décidément, il importe pour lui que vive le livre, car il est ce merveilleux petit véhicule qui sait si bien transporter les plus complexes de nos idées.
Merci beaucoup Éric Dussert pour ces trois conseils de lecture. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus, je donne évidemment rendez-vous avec le magazine lui-même, qui se trouve soit en kiosque, soit en abonnement, c'est ça Éric ?
Et même en librairie.
Et même en librairie, comme c'est bien fait. À bientôt.
À bientôt.
On continue de parler d'Annie Ernaux dans la compagnie des auteurs, une écrivaine pour qui, on vient de le voir, la sociologie a été déterminante, en particulier la sociologie de Pierre Bourdieu, mais également la politique. Dominique Viard nous l'explique, il est mon invité. Ce sentiment de la domination sociale, un autre écrivain l'a ressenti forcément, c'est Jean Genet, vous l'évoquiez, Dominique Viard. Je vous propose d'écouter ce que Annie Ernaux disait à Kathleen Evin en 2003 à propos de l'auteur de Notre-Dame des Fleurs.
Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Je l'ai mise en exergue à mon livre La Place, qui sera le quatrième. Mais au fond, c'est ça. C'est ça, mais la trahison n'est pas la même pour moi que pour Genet. C'est le sentiment de trahison de classe, d'être une transfuge de classe. Et donc d'être passé du milieu, non pas pauvre, il n'y a pas les pauvres et les riches, il y a à l'intérieur du monde dominé différentes strates. Mes parents n'étaient pas parmi les plus pauvres, ils étaient petits commerçants, mais ils avaient été ouvriers. Donc plutôt c'est le monde dominé culturellement et aussi en grande partie économiquement. Mais donc de ce milieu-là, je suis passée dans le milieu dominant culturellement et professeur de lettres, etc. Et le sentiment donc de coupure d'abord, le sentiment énorme de fossé, de coupure, et ensuite eh bien le sentiment en étant justement à l'intérieur de l'éducation nationale, ce sentiment que finalement j'étais passée du côté qui ne faisait, bon, qui en quelque sorte avait passé la ligne. Je pouvais être fière, faire comme Guénaud, finalement dire voilà, j'ai passé la ligne, mais c'est pas ça que j'éprouvais du tout. C'était le sentiment, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, j'allais continuer de donner des cours, de peut-être faire une thèse, etc. Mais au fond, la trahison restait là.
Écrire, c'est donc le dernier recours quand on a trahi. Dominique Viard, cette phrase de Jean Genet que vous avez évoquée tout à l'heure en passant, pour dire à quel point justement elle était importante pour Annie Ernaux. Donc c'est ça, c'est le moteur principal de l'écriture chez elle, cette tentative de réparer ce qu'elle ressent comme étant une trahison par rapport principalement à ses parents.
Oui, c'est renouer avec ce qu'elle a dû renier, comme elle le disait dans l'autre extrait tout à l'heure. en évoquant son adolescence, c'est revenir à cette origine qu'elle avait quittée, dont elle est partie, pour mieux comprendre le trajet qu'elle a parcouru et pour mieux comprendre d'où elle vient. C'est ça cette éthique de la restitution que j'évoquais tout à l'heure. Et en même temps, le faire en trouvant une écriture qui, elle, ne trahisse pas. Je crois que ça aussi c'est très important, d'où cette dimension très déontologique finalement de l'écriture d'Annie Ernaux.
Mais ce qui est le contraire de Genet pour le coup, parce que l'écriture de Genet, je ne sais pas si elle trahit son origine sociale, mais en tous les cas c'est une écriture exubérante, c'est d'ailleurs ce qu'on aime dans son écriture.
Une écriture exubérante avec un jeu très, très concerté de recours au subjonctif imparfait, aux des structures de la langue extrêmement rhétorique, qui est une sorte de revendication d'appropriation chez Genet.
Est-ce qu'elle est moins démocratique pour autant, cette langue de Genet, que la langue d'Annie Ernaux? Est-ce qu'elle est moins facilement lue
Elle est certainement moins facilement lue, de fait. Moi, j'ai cette expérience très très émouvante du dernier entretien que j'ai fait avec Annie Ernaux à Clermont-Ferrand il y a 2 ans, dans une salle qui était absolument bondée d'un public extrêmement divers. Et puis après l'entretien, je donne la parole au public en pensant que quelques questions viendraient, et les personnes qui ont demandé à parler n'avaient pas de questions particulières à poser à Annie Ernaux. Ils voulaient tous la remercier d'avoir écrit ce qu'elle avait écrit, de les avoir reliés avec eux-mêmes, de leur avoir permis de reprendre pied dans leur propre vie. Enfin, c'est extrêmement émouvant. Je ne pense pas que Genet aurait suscité de telles réactions.
Alors, justement, cette question des récits de filiation, c'est une expression que vous avez forgée pour essayer de cartographier un petit peu la littérature française à un certain moment, et qui a été au fond catalysée par Annie Ernaux. On pourrait peut-être en parler un petit peu davantage, puisque vous dites qu'avec Pierre Michon, Pierre Bergougnoux, c'est Annie Ernaux qui est la première à esquisser cette nouvelle forme des récits de filiation. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui a été finalement inventé par Annie Ernaux et par ces 2 autres noms que j'ai cités?
Avant, il y avait des autobiographies, il y avait des récits familiaux, il y avait des sagas familiales qui avaient toutes finalement un peu la même forme. Il s'agissait de commencer à la naissance ou de commencer à telle ou telle génération antérieure et de suivre le mouvement du temps, le mouvement historique, de manière finalement chronologique pour arriver jusqu'au sujet lui-même et jusqu'au moment présent. Donc on allait du passé vers le présent. Dans le récit de filiation, ce mouvement-là s'inverse. On commence au présent, et souvent ce présent d'ailleurs c'est la disparition, la mort d'un père, d'une mère ou d'un aïeul. À partir de quoi on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vie qui vient de disparaître? Qu'est-ce qu'elle me laisse? Qu'est-ce qu'elle a traversé? Quelle a été son expérience de l'histoire et des événements qu'elle a pu connaître?
Donc on part de soi quand même?
Donc on part du moment présent, on part finalement de la séparation que la mort induit pour essayer de reconstruire la vie de la personne qui vient de disparaître. Et donc le récit se fait archéologique au lieu de se faire chronologique, si vous voulez, il remonte le temps. Et puis c'est un récit qui prend la forme d'une enquête. Ce qui est assez frappant, c'est que les récits de filiation sont pour la plupart du temps des récits qui portent sur des gens qui n'ont pas beaucoup parlé, qui n'ont pas beaucoup transmis. Il y a beaucoup de récits de filiation sur la Shoah aussi, alors pour des raisons historiques, de gens qui ont été détruits dans les camps de la mort, ou qui en sont revenus mais se sont tus. Et les enfants ou les petits-enfants enquêtent sur ce vécu-là qui leur a échappé. Et donc il s'agit de reconstruire un héritage.
Un petit dont peu on a comme été... du côté de l'histoire, on fait de la micro-histoire, c'est-à-dire que on s'intéresse vraiment au destin particulier des hommes et des femmes, souvent peu connus, souvent précisément pas célèbres, qui ont pourtant, à leur manière, marqué l'histoire. Est-ce qu'on peut faire ce parallélisme entre les deux matières?
Alors, on peut le faire. Moi, je l'ai fait effectivement en repérant dans un entretien qu'Annie Ernaux avait donné à la revue Roman 2050, un petit passage où elle dit que si on veut pouvoir écrire de soi, de son enfance et aussi de ce qu'ont pu vivre ses parents ou ses grands-parents, eh bien, on est obligé d'essayer de reconstituer par approximation, parce que ces gens-là, qui sont des gens du peuple, des gens de peu, comme dirait Sanso, sont des gens qui ne laissent pas de traces, qui laissent très peu d'archives, et donc pour savoir ce qu'ils ont vécu, il faut essayer de reconstituer quel était le mode de vie de leur milieu, de leur univers géographique, de leur époque. C'est exactement ce à quoi se livrent les historiens de la microstoria italienne, Ginsburg, Giovanni Levi et les autres, en s'interrogeant sur un exorciste, un meunier, enfin, etc., ou Corbin avec un sabotier au XIXe siècle, et donc essayer peu à peu de circonscrire une vie pour réussir à identifier une vie singulière. Et ça, c'est aussi, je crois, très intéressant, parce que c'est une manière de renouer avec une histoire biographique, finalement, mais en gardant l'orientation de ce qu'on a appelé la nouvelle histoire, l'histoire des annales, qui était une histoire du peuple. Mm-hmm. Sauf que dans l'histoire des annales, c'est une histoire collective du peuple qui nous est donnée. C'est une histoire économique, une histoire sociale. Là, c'est une histoire qui se veut individuelle.
Du coup, ça devient presque un document d'historien, un livre d'Annie Arnaud, au fond, parce que c'est un témoignage sur la traversée d'une vie, tout simplement.
Alors, ça devient, oui, effectivement, un travail d'historien. Elle le dit, d'ailleurs, dans un entretien où elle dit que ce qu'elle veut, c'est considérer ce qui m'est arrivé, ce qui arrive, non pas comme quelque chose d'unique, d'accessoirement honteux ou indicible, mais comme matière à observation afin de comprendre, dit-elle, de mettre au jour une vérité plus générale. C'est-à-dire que, à travers l'observation qu'elle fait de sa propre vie, des gens qu'elle rencontre ou de ce qu'elle voit, elle essaye de construire effectivement une vérité de son temps, d'une époque, d'un milieu, d'un monde, en fait.
Alors, l'émergence, au fond, de ces récits de filiation, on peut imaginer, Dominique Viard, qu'elle n'arrive pas complètement par hasard et que cette émergence, elle est permise aussi par une évolution de la manière dont on pense et dont on pense l'individu, sans doute après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez tenter d'expliquer, ou pas d'ailleurs, par l'évolution de la société, l'émergence de ces récits de filiation ?
En fait, je crois que l'émergence des récits de filiation a été quelque chose d'assez brutal, au contraire, d'assez peu préparé en amont. C'était une double rupture. C'était une rupture à la fois avec la littérature formaliste, plutôt centrée sur elle-même. Et là, il s'agissait de prendre en considération des réalités extérieures à la littérature. Et c'était une rupture aussi avec une littérature plus académique, plus rhétorique, plus romanesque dans sa manière d'être. C'est une littérature qui s'est portée au ras des choses, des expériences, et a essayé de trouver une langue pour pouvoir la dire, avec des formes de langue extrêmement diverses, puisqu'entre celles de Michon, qui est une langue assez sublime, enfin très, très travaillée, très recherchée, et celle d'Annie Ernaux, qui essaye au contraire d'être la plus ascétique possible, la plus neutre possible, il y a un monde, il y a une divergence extraordinaire, mais en même temps l'enjeu est de même nature. Il s'agit de refuser le romanesque pour essayer d'être plus dans quelque chose qui soit du côté du documentaire, finalement. Il s'agit de renoncer à écrire une histoire, et donc être plus dans une sorte d'enquête archéologique, de remonter en amont, si l'on veut. Il s'agit de ne pas produire un discours unifié et surplombant, mais de saisir des petits moments, et donc ces textes sont souvent prennent la forme de recueils, de fragments. Ils sont très très fragmentaires. C'est des petites vies chez Michon, c'est des petits moments chez Annie Ernaux. Il s'agit de s'inquiéter de la question sociale à chaque fois, et de manière très diverse aussi chez chacun d'entre eux, mais à chaque fois de manière très insistante, et puis de se poser la question de la langue avec laquelle on écrit cela.
Mais ce que je voulais dire, c'est que cette enquête de l'écrivain sur ses origines et sur son identité, est-ce que ce n'est pas un trait d'époque aussi ?
C'est devenu un trait d'époque à partir de leurs propres travaux, puisque après eux, il y a eu Jean Rouault, il y a eu Claude Simon, il y a eu quantité d'autres écrivains qui se sont mis, et Le Clésio avec l'Africain, enfin, on pourrait multiplier les noms. Il y a eu une quantité de récits de filiation tout à fait considérable qui continue de se publier. Il y a eu récemment Bruckner, par exemple. Enfin, beaucoup d'écrivains se sont saisis de cette forme-là parce qu'elle semble correspondre peut-être à une inquiétude de la fin du XXe siècle aussi, puisqu'ils apparaissent dans les années 80, dernière décennie du siècle.
Une inquiétude sur quoi ?
Une inquiétude sur ce siècle terrible qu'on vient de traverser, qui était à la fois un siècle marqué par des événements géopolitiques considérables, deux guerres mondiales, génocides, mais aussi un siècle qui a été un siècle de mutation dans les modes de vie, dans la réalité quotidienne absolument considérable. C'est Pierre Bergougnoux qui dit que jusqu'aux années 60, on était resté dans une France quasiment médiévale et que d'un seul coup, avec l'industrialisation des campagnes, on a basculé dans dans un monde différent, pour ne rien dire du numérique dont il était question tout à l'heure avec le matricule des anges, et qui bouscule aussi notre mode d'être. Et donc, il y a la prise de conscience d'un monde qui disparaît. Et ce monde qui disparaît, le récit de filiation essaye de le retenir à travers des existences singulières aussi.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Il y a un terme qu'on n'a pas prononcé encore, Dominique Viard, dans cette tentative de cartographie de la littérature d'Annie Ernaux, c'est le terme d'autofiction. Elle-même rejette, je crois, ce terme, du moins elle ne se reconnaît pas vraiment dans le genre de l'autofiction. Néanmoins, on peut se poser la question, qu'en dites-vous ?
On pourrait se poser la question pour des textes comme Passion simple, par exemple, effectivement, mais elle récuse ce terme, et elle le récuse au profit d'autres formules qu'elle essaye. J'ai cité tout à l'heure l'autosociobiographie, elle parle aussi, c'est dans Une femme, d'ethnologie d'elle-même. Et je pense qu'il y a effectivement cette grande différence entre le travail d'Annie Ernaux et l'autofiction. L'autofiction est centrée sur le sujet, véritablement. Chez elle, il y a bien sûr tout ce matériau personnel qui est convoqué par les textes littéraires, mais c'est souvent à travers ce qu'elle appelle elle-même d'ailleurs un « je transpersonnel ». Parfois, elle hésite entre le « elle » et le « je », dans les années, on le voit bien.
D'ailleurs, ça va marquer une rupture que ce livre, les années, du passage à la troisième personne du singulier.
Tout à fait, c'est une manière d'accueillir dans le texte des expériences communes et partagées par d'autres, en se désindividualisant, en n'étant plus dans le cœur intime de sa propre vie, parce que les expériences des années sont des expériences communes, des expériences éminemment partageables.
C'est une façon de ne pas être trop auto-centré. Peut-être est-ce une critique qu'on a pu lui faire au fur et à mesure des années. Est-ce que il y a eu chez elle, le croyez-vous en tous les cas, une volonté d'ouverture justement pour ne pas rester sur son propre sujet?
On pourrait parler de volonté d'ouverture avec des textes comme La vie extérieure ou Le journal du dehors, enfin des textes qui sont plus orientés sur des observations que Annie Ernaux fait du monde qui l'entoure. Mais je pense qu'en fait elle n'a jamais été auto-centrée. C'est ce que parfois la critique a eu du mal à comprendre, parce qu'effectivement lorsqu'elle parle de son père, de sa mère, puis de son adultère, de son avortement, on se dit que c'est bien d'elle qu'elle parle, mais elle parle de réalité de son temps, d'expériences qui, pour être intimes, sont des expériences communes et évidemment partagées et partageables. Et donc, ce n'est pas une littérature auto-centrée. C'est pourquoi ce n'est pas une auto-fiction. Et en plus, ce n'est pas une fiction non plus. Tout ce qu'elle évoque sont des choses qui sont effectivement vécues, qui ne sont pas du tout fantasmées, qui ne sont pas du tout imaginées ou rêvées. Ce sont des choses tangibles.
Il y a même une volonté de vérification, d'ailleurs, de sa part.
Absolument. Et cette dimension bourdieusienne, sociologique, voire marxiste, qu'on évoquait tout à l'heure, sont des manières de saisie de son expérience personnel. Donc le personnel ici n'est que le matériau à partir duquel s'élabore une réflexion qui est beaucoup plus générale, beaucoup plus ouverte que dans l'autofiction.
Finalement, l'autofiction, si elle existe, c'est peut-être dans les photos, et notamment dans ce livre, L'usage de la photo, qu'on peut trouver chez Folio Gallimard, où elle reproduit précisément des clichés de sa vie, et notamment de sa
Mais
vie
vous avez remarqué qu'il n'y a pas de photos d'elle, que ce sont des photos de vêtements jetés à la hâte dans la frénésie du désir. Alors, elle parle d'elle, elle parle de son cancer dans ce livre-là, de manière extrêmement pudique, mais extrêmement nette aussi, je crois. Et donc, là encore, on n'est pas véritablement dans une autofiction ni dans une autobiographie, on est dans l'affrontement à une réalité qui est partagée par quantité d'autres femmes qui ont aussi eu à affronter un cancer du sein ou d'un autre organe, et d'autres hommes d'ailleurs, puisque aussi bien les hommes que les femmes se reconnaissent chez Annie Ernaux. C'est aussi quelque chose qui est très frappant. Mm-hmm. C'est pas une écriture qui est clivante sur le plan sexuel ou sexué ou genré, c'est une écriture qui est accueillante à tous.
Merci. Merci beaucoup Dominique Viard pour cet éclairage d'aujourd'hui.
Merci
sur Annie Ernaux. Je rappelle votre anthologie de la littérature contemporaine, romans et récits depuis 1980, publié en 2013. C'est chez Armand Collin. Signalons également que vous avez co-dirigé le cahier de Lerne consacré à Pierre Michon. Il a paru à l'automne dernier. Demain, avec Pierre-Louis Faure, nous parlerons du livre d'Annie Ernaux, La Place, et aussi des supermarchés dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver notre ami Jacques Bonafé pour des lectures de poésie. Jacques Bonafé.
Bonjour et bonjour la compagnie, c'est reparti. Hier, nous parlions, reparlions du parler-écrire. Le parler-écrire, si cher à Alain Borère dans sa définition parfaite d'une langue française. Et la poésie, effectivement, pour son lecteur ou ses comédiens occasionnels, Jacques, alors de qui parlez-vous, est une façon particulière de parler l'écriture, son mouvement, ses interruptions, son dessin sur la page, etc. Le vocaluscrit que nous manipulons cette semaine de Patrick Berard-Valdois décrit des séances de lecture publique par les poètes eux-mêmes. Par exemple, Nathalie Quintane, Maison des écrivains, Hôtel d'Avjan, en 2000. Elle s'installe à la grande table vernie, saluant le public timidement, bouge le micro, dispose les feuilles, débouche comme il se doit la bouteille demi, verse de l'eau minérale dans le gobelet en plastique, bouscule-le, renverse-le, l'eau infuse l'angle supérieur de la liasse. Bon, ça commence bien. Regarde silencieusement droit dans les yeux de l'auditoire, renouant le fil de la lecture, ingénument remarquable, languement fluide. C'est le dernier mot du portrait. Autre portrait, celui d'Ulrich Dressner, au périphérique du marché de la poésie, au Goethe-Institut le 17 juin 2013. Bleu, vert de gris de robe, à motif de marguerite, de méduse stylisée ou d'éventail chinois ouvert. Par-dessus, legging bleu marine, devant un fauteuil vert tail sur moquette beige à carreaux. Elle ondule debout des hanches, Savigny Platz. Tiens la revue à demain, blink, elle prend son élan, bam, scande dans l'air moite post-orage, über, bogen, le visage s'incline, verg. Le corps enclin, tout en extension monosyllabique traversée, captant l'onde, en rond de bouche, sourcils en rondeur, er, et, elle annonce l'impossible à transcripter, main gauche explicative passant dans le blond de chevelure les lettres disparues, la voix portante modulante, ich lese, un manuscrit en main droite et la gauche rythmant l'apesant, le regard accentue paprika en mamrika, cherche un autre poème, cherche l'œil public, gloute, cheveux au carré ondulant léger, what is poetry? Interruption de ce poème pour aller vers le portrait de Jacqueline Merville au périphérique du marché de la poésie, espace des femmes, le 14 juin 2016. Jacqueline Merville, elle dit, la multitude des femmes victimes d'un terrorisme invisible leur dédie ce qu'elle lit. Elle empoigne le micro noir vertical porté aux lèvres. Elle dit debout des bouts de noir sur le flanc de la table en métal. Elle se bascule, articule d'une jambe sur l'autre, scande les vers, hachant les mots martelant, tête inclinée, buste oblique, livre perpendiculaire, tenue ouverte de la main gauche, père fleuve. Sa voix est grave et rauque. À la fin du poème, elle verse de l'eau dans le verre à pied, s'éclipse, entre dans l'ombre, s'assied au premier rang, se masse l'arcade sourcilière. Elle craint pour son œil lisant, et qu'a-t-il donc vu ?
Merci Jacques, aujourd'hui vous lisiez trois portraits de femmes de Patrick Berard-Valdois.